Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors je vais probablement être aussi décousu que l'été Mauss parfois dans son enseignement. Antoine Compagnon m'a fait l'amitié de me demander de clôturer cette journée consacrée à l'exploitation des archives de Marcel Mauss, et je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix, parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas du tout spécialiste des archives, je suis anthropologue, plutôt spécialiste de ce côté sans écriture, comme Mauss l'était en partie. Et donc le Mauss que je connais n'est pas celui des archives, c'est le Mauss de la pratique cannibale des anthropologues qui le lisent en se frottant à ses concepts, à ses analyses, et en essayant d'en tirer le meilleur profit. Et je l'ai utilisé au fil des années de bien des façons. J'ai été critique aussi, comme d'ailleurs beaucoup d'ethnologues vis-à-vis de l'essai sur le don, qui est assez curieusement un texte qui est très cité, conçu comme le bateau phare, en somme, de l'anthropologie de Mauss, et vis-à-vis duquel la plupart des anthropologues que je connais, soit personnellement, soit dans leurs publications, sont assez critiques pour différentes raisons. Pour moi, c'est parce que, et je crois que pour beaucoup d'anthropologues, il a utilisé pour décrire une théorie de l'échange des cas qui sont tératologiques. Hein, le potlatch et d'autres manifestations de ce type-là ne représentent en aucune façon des formes normales d'échange. Parce que aussi, à mon sens, et ça c'est Denis Vidal qui l'avait montré, mais je pense que son analyse est juste, il y a un élément d'ethnocentrisme implicite, en ce sens que les trois obligations du don, c'est très probablement inspiré par les trois grâces, et l'obligation de donner, de recevoir et de rendre, et il ne mentionne pas. Et dans bien des cas, effectivement, ça n'existe pas. Donc il y a une tradition, je pense, qui est liée à sa grande culture de l'Antiquité classique, qui est venue peut-être affleurer dans cette façon de concevoir le don. Et puis c'est aussi une définition assez floue de l'échange, parce que si on définit l'échange, il faut le définir essentiellement par les obligations qu'on encourt. Et il me semble que si on, dans le don, la différence qu'il y a entre le don et l'échange, c'est que dans l'échange, on a une obligation de rendre, alors que dans le don, même si on est obligé, cette obligation n'est pas une obligation de rendre, et donc c'est quelque chose qui n'est pas véritablement un don. Donc je ferme la parenthèse. Ce dont je voudrais dire quelques mots de conclusion, et ça rejoint ce qui a été dit, ce que j'ai pu écouter. C'est l'autre raison pour laquelle je ne suis pas un bon choix, c'est que malheureusement, je n'ai pas pu être là ce matin, et donc je n'ai pas écouté les participants ce matin. Mais ce que j'ai entendu jusqu'à présent a souligné le caractère, l'extraordinaire ampleur des intérêts de Marcel Mauss, la façon dont il avait été reçu de manière très différente par les publics qu'il avait lus, son indétermination disciplinaire, qui est aussi d'une certaine façon une indétermination théorique. C'est comment définir ce qu'est le type de théorie qu'a fait Marcel Mauss, c'est pas facile du tout. Et donc je voudrais parler d'un Mauss dont je crois qu'il n'a pas été abordé aujourd'hui, qui est le Mauss anglais. En fait, le Mauss tel qu'il s'est développé en Angleterre, et qui est en fait assez différent du Mauss, on a parlé du Mauss allemand, assez différent du Mauss allemand et du Mauss français. Et c'est, je pense, un des grands mérites de Mauss. On peut parler de théorie de la réception d'une manière générale, mais c'est un des grands mérites de Mauss que d'avoir été lu de façon extrêmement différente et avec des lunettes ou un cadre d'analyse extrêmement différent selon les pays où on l'avait lu. Je voudrais, à ce propos, commencer par une anecdote. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'avais été faire une conférence à Oxford, et la BBC m'avait demandé un entretien, une interview. Donc je parle des rapports qu'il y avait entre l'anthropologie française et Oxford, inévitable, et en particulier l'importance qu'avait l'école durkheimienne à Oxford. Oxford, d'une certaine façon, en anthropologie, c'est une transplantation de l'école durkheimienne. Et au terme de l'entretien, une jeune femme qui était agile intellectuellement me dit « Ah, mais Durkheim, il était français ?» Effectivement. Et cette jeune femme ne savait pas que Durkheim était français, elle pensait qu'il était anglais. Et je pense que ça signale, d'une certaine façon, une manière qu'a eue l'anthropologie anglaise de s'approprier l'école durkheimienne d'une manière générale et de la transformer en fonction de ses intérêts. D'une certaine façon, peut-être que pendant longtemps, Mauss a été plus influent au Royaume-Uni à travers les anthropologues britanniques qui s'étaient emparés de lui. Je vois Marcel Fournier qui est au Pied du Chat parce qu'il a écrit des choses importantes sur cette question, qui n'a été en France, et en particulier à Oxford, en particulier parce que Evans Pritchard, qui avait cette ambition de construire un lignage intellectuel de l'anthropologie britannique, a utilisé pour ce faire une généalogie qui est essentiellement française, c'est-à-dire ça commence à Montesquieu, c'est Condorcet, c'est Auguste Comte bien sûr, c'est Saint-Simon, et bien sûr c'est Durkheim. Et il se trouve que physiquement Durkheim était peu présent en Angleterre, alors que Mauss l'a été beaucoup, il est venu souvent en Angleterre, c'est lui donc qui a incarné tradition. Il avait des rapports avec Tyler, avec Fraser, avec Rivers, Adden, Marrett, Seligman, enfin le banc et l'arrière-banc de l'anthropologie britannique, et ils l'ont lu très tôt. Et au fond, l'attrait que les Durkheimiens exerçaient sur l'anthropologie anglaise est dérivé de leur fidélité à la réalité concrète des descriptions ethnographiques que les anthropologues britanniques appréciaient tout particulièrement dans les textes de Mauss, dans la minutie de son traitement du matériel ethnographique, qui rencontrait évidemment le goût pour l'empirisme des anthropologues anglais. Je cite ici, par exemple, une formule de Wendy James, qui est la grande dame de l'anthropologie durkheimienne, une africaniste, à Oxford, lorsqu'elle écrit « Ce que le groupe de l'année sociologique offrait à ceux qui cherchaient à développer un cadre philosophique pour l'anthropologie sociale, donc au Royaume-Uni, était leur combinaison de respect pour les détails empiriques, pour la sensibilité linguistique et pour la promesse d'une comparaison sophistiquée et de grand niveau. » Et elle écrit cela, Wendy James, dans un petit livre consacré à Mauss. Et le titre de son article est « He is one of us ». Il est l'un de nous. Il est l'un de nous et donc, au fond, il a été annexé, arraisonné par l'anthropologie britannique comme à la fois un modèle, un collègue. Et évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est il y a un côté un peu paradoxal parce que c'est pas réversible. Je vois mal... des anthropologues français, je vois mal de quel anthropologue anglais des anthropologues français pourraient dire « c'est l'un d'entre nous ». Donc qu'il ait pu être conçu comme un anthropologue anglais est intéressant. Evans Pritchard a développé, au fond, peut-être l'une des raisons pour lesquelles c'était le cas, et je pense qu'il y a là un malentendu, lorsque Evans Pritchard a insisté sur cette idée de l'homme total, qui est centrale chez Mauss, Bruno Carsanti a consacré un beau livre. Et c'est cette idée, au fond, que tout doit être étudié de façon ethnographique, dans le détail, de façon à reconstituer, à travers le mélanésien de telle ou telle île, au fond, la totalité d'un système social. Et ce que Evans Pritchard admirait chez Mauss, c'était la capacité de faire ça à travers l'ethnographie des autres et non pas comme le faisaient les ethnographes anglais et pas encore les Français, Denise Poum a été une des premières effectivement à le faire en France, comme le faisaient les ethnographes anglais, par l'observation participante de longue durée, c'est-à-dire en embrassant la totalité d'un système social par l'observation directe pendant une très longue durée. Vous voyez, Mauss, il a fait ça, mais il a fait ça dans son cabinet. Et donc, l'homme total, il a restitué à partir de l'analyse ethnographique, de l'ethnographie des autres. Mais évidemment, ce faisant, il déplaçait la perspective de Mauss vers une perspective néo-fonctionnaliste, de reconstitution d'un univers fermé, etc., ce qui n'était véritablement pas le projet de Mauss. L'homme total de Mauss, il est aussi fondé sur la nécessité de la comparaison, et d'une comparaison qui n'était pas du tout celle que Evans Pritchard mettait en avant. Donc, autrement dit, au-delà de l'idée classique qu'un texte n'appartient jamais à son auteur, puisqu'une fois qu'il est sorti, il peut être réinterprété, relu, etc., et c'est ce qu'on fait tous ici, il me semble que le grand nombre de lectures que l'on peut faire de Mauss a été un gage de son succès. Et d'une certaine façon, Mauss est un peu un mana, justement, c'est-à-dire que le caractère flou de la notion de mana, qui a été l'un des gages du succès de ce concept par l'anthropologie, du fait que la notion de mana a été réutilisée par les anthropologues pendant 30 ans. Et peut-être peut-on dire cela de Mauss, c'est-à-dire qu'au fond, il peut être lu de manière extrêmement différente, il peut être approprié dans des traditions nationales extrêmement différentes. Et le travail que les historiens, les philologues, les spécialistes des archives, les historiens des idées, permettra peut-être d'ancrer Mauss, non pas dans une version définitive, c'est un projet absurde, mais de lui donner, au fond, des fondements qui dessineront une figure de Mauss, sociologue, anthropologue, ethnologue, etc., plus fermement établie que celle, au fond, qui s'est constituée au fil du temps par des gens, en particulier les anthropologues, qui ont une lecture présentiste. Hein, c'est normal, nous ne sommes pas des historiens, donc encore, j'ai parlé de cannibalisme tout à l'heure, nous utilisons nos au fond, une espèce d'histoire faite un peu malhabilement des idées, de manière à nous resituer dans le travail qu'on fait des prédécesseurs et à évaluer au fond ce que nous pouvons faire par rapport à ce qu'ils ont fait, comment faire jouer les concepts qu'ils ont utilisés, etc. Il n'y a rien d'historique là-dedans, simplement on s'intéresse à eux dans cette perspective. Et donc l'importance du rôle des historiens des spécialistes des textes dans cette entreprise va consister à peut-être donner, à multiplier les attaches que Mauss avait, non seulement avec ses contemporains, ses élèves, ses collègues, de façon à ce que se dessine une figure qui soit plus identifiable, ce qui n'empêchera pas encore une fois, les anthropologues, de continuer à se l'approprier de des façons très diverses. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion de cette belle journée.